bienvenue à cette édition de Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3. Après une semaine de congé, le printemps fait son retour ici à Québec et on est excité de vous annoncer notre invité de la semaine. Emery, je te laisse la parole.
Oui, alors, merci Charles. Aujourd'hui, on reçoit une athlète d'athlétisme qui est la recrue de l'année l'an dernier, dans le fond, U-Sports. Alors, l'athlète féminine, la recrue de l'année, dans le fond, au Canada, c'est Frédéric Chiasson. Une amie, dans le fond, je peux la présenter comme ça, une fille de ma région, native de Lassard, en Abitibi-Témiscamingue. Comment ça va, Frédéric?
Mais ça va bien, vous autres?
Ça va bien, merci.
Ça va bien.
Alors, pour commencer, Frédéric, peux-tu te décrire rapidement, nous parler toi un peu?
Ouais, ben vite, tu sais, c'est ça. J'ai commencé, moi, en Abitibi, dans le même coin, pour finalement aller jouer au volley tout mon secondaire collégial, puis finalement, à l'université, on change de sport athlétisme. Fait que là, c'est ma deuxième année d'athlétisme en médecine, puis là, tout nouveau, un certificat en psychologie.
OK. Ah, je savais pas.
Oui, c'est depuis nouveau quand? Depuis cette année.
Ouais. En plus de ta médecine.
Oui, j'ai allongé ma médecine pour mettre un certificat d'en psycho là-dedans.
Ah, c'est...
Wow. Ouais. Okay.
C'est du stock quand même.
Ouais. Fait que ça, c'est ça.
Ah, OK. Mais puis toi, dans le fond, quand t'es rentré à l'Université Laval, t'es rentré en disant que t'allais faire de l'athlétisme ou tu savais pas trop en rentrant? Ou...
Je suis rentrée en me disant que j'allais faire de l'athlétisme. Dans le fond, moi, à la fin de mon parcours collégial, ouais, le coach d'athlétisme m'avait approché puis m'avait dit « Hey, tu sais, si tu veux, viens essayer ça l'été avec nous. »
Ouais.
Fait que j'ai fait ça pendant l'été, plus en saut. Puis là, finalement, à l'entrée à l'université, ben ça allait bien. Fait que j'ai continué avec eux autres. Puis je me suis dit, ben je me suis inscrite à l'Uni en me disant, il y a une possibilité de, mais tu sais, c'était un peu nouveau. Fait que c'était un peu un gamble, là, comme on dit. Là. C'était à suivre pour ça.
Puis est-ce que tu avais des offres ou des aspirations de le faire en volée, de continuer en volée à quelque part, pas nécessairement à Laval, mais ailleurs? Est-ce que c'était quoi qui était dans ton esprit à l'entrée à l'université ou non?
Un petit peu, je dirais, à ma deuxième année de volée. Mais tu sais, moi, il y a comme eu la COVID à travers ça.
Ouais,
fait que les plans, ils ont changé. Le recrutement, c'est plus difficile. Il y avait peut-être à Trois-Rivières, mais là, pour, tu sais, avec les admissions en médecine, des fois, il faut aller dans les unis aussi que ça s'offre. Puis c'était un peu moins à Trois-Rivières. Fait que, puis c'était un peu dernière minute. Fait que finalement, j'avais comme mis ça de côté. Puis je me suis vraiment fait du fun ma dernière année de volée. Puis on dirait que là, me dire qu'à l'université, il fallait que je me rebatte contre du monde plus grand. Ouais. Je me dis, peut-être que je suis dû pour changer de sport. Okay. On l'essaie.
Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'Abitibi pour venir à Garneau jouer au volleyball?
Je me suis toujours dit, je vais prendre toutes les opportunités que j'ai. Puis à la base, justement, moi, j'étais à Lassard au début, une petite ville en Abitibi, pour aller à Rouyn en sport-études. Puis là, après voler, un coach de Québec, il me dit, hey, tu veux-tu venir? Puis là, c'est venu comme ça. Je me suis dit, si j'ai une opportunité qui s'ouvre, pourquoi pas? Puis éventuellement, justement, en Abitibi, souvent, on va quitter pour l'Uni. Mm-hmm. Fait que je me suis dit, ça va s'en venir de toute façon. Pourquoi pas y aller là quand j'ai une belle opportunité devant moi? Là.
Puis j'imagine que tu n'as pas regretté, là, à votre première année, si je ne me trompe pas, vous avez gagné le championnat provincial.
Oui, championnat provincial, exact. Puis justement, notre seul défait de l'année, c'était la finale canadienne cette année-là. Fait que c'était un peu crève-cœur, mais vraiment une belle année. Là.
Mm-hmm.
Ouais.
Puis la deuxième année, c'est passé comment?
Deuxième année, c'était un début, on savait pas trop, tu sais, parce que ça s'est terminé avec la COVID, là, que c'était comme l'annonce, 2 semaines fermées, puis après, on voit. Mais on a vu pendant longtemps, finalement, ça a été long avant que ça revienne. Fait que c'était on and off, là, le début de la deuxième année. C'était on peut jouer, on peut plus. Là, on peut jouer 2 par 2, mais on touche pas le ballon de son ami. Puis là, on change les duos, puis là, finalement, tu sais, fait que c'était super compliqué pour ça. Puis là, finalement, zone rouge à Québec, on arrête tout. Fait que finalement, on n'a pas eu de tournoi de game cette année-là. Fait que ça s'est passé un peu plus chacun chez nous. Là, je dirais comme la majorité du monde qui ont fait du sport pendant cette période-là. Puis...
Non, je te comprends. Moi aussi, au cégep, ma saison de basketball s'est terminée un peu de la même façon. Là. Les séries éliminatoires approchaient, puis finalement, COVID-19, alors plus de sport. Ça se termine assez abruptement quand même. Là. C'est assez dommage de terminer son parcours collégial de cette façon-là. Mais heureusement pour toi, au moins, tu t'es rendu universitaire en faisant du sport, ce qui est assez exceptionnel. Comment s'est passée ta transition, ton été, entre le cégep et l'université? Là, de quelle façon tu t'es entraîné pour te préparer à la saison d'athlétisme qui s'en venait?
Ben, honnêtement, en fait, moi, quand je suis rentrée avec le coach de saut à longueur. Parce que, tu sais, à travers au secondaire, je sais pas si vous, ça vous faisait ça aussi. Des fois, dans les écoles secondaires, on est comme obligé de faire le régional d'athlétisme. Puis là, après, tu classes pour le province.
Ouais.
Ben, moi, c'était un peu ça. Tu sais, je jouais au volley, je faisais le régio, ça allait bien, j'allais au province. Puis ça avait bien été une année, justement, j'avais gagné le province au saut en longueur, mais tu sais, un peu, on court plus vite, saute, puis ça va marcher, on essaie ça. Fait que là, le coach de saut, il me dit, hey, j'avais déjà vu tes performances, tu sais, embarque avec nous. Fait que j'avais dit, ben oui. Fait que tout l'été, je m'étais entraînée avec lui, on avait des petits trainings de sprint à travers ça. pour que finalement, pendant l'été, tu sais, au saut, j'étais pas mal jamais là, vu que j'étais pas vraiment technique. Mais qu'en sprint, juste le fait de donner du volume un peu, mes temps, ils baissaient. Fait que je me suis dit, ben, crime, tu sais, c'est le fun, ça s'améliore super vite. Puis quand tu commences un nouveau sport, tu sais, c'est. Ça s'améliore plus vite que quand ça fait longtemps et que t'es déjà jamé.
Ce talent-là que t'as en sprint, est-ce que tu le savais que tu l'avais? Est-ce que tu connaissais tes aptitudes ou ça a été totalement une découverte pendant cet été-là d'entraînement de faire genre, OK, wow, je suis vraiment bonne en sprint, en athlétisme sur courte distance?
Mais un petit peu parce que justement, tu sais, au secondaire, je voyais bien que ça allait bien, ça courait vite, puis je me disais, tu sais, je suis pas pire quand même. Tu sais, ça va bien. Mais finalement, je pensais pas. Tu sais, je m'attendais jamais à ce que ça aille autant bien, mettons.
Parce qu'en un an, tu sais, de passer d'une athlète de volleyball mais à une personne qui fait de l'athlétisme puis à être recrue de l'année, c'est...
Au Canada, en plus. Là,
au Canada, c'est assez exceptionnel.
Est-ce qu'il y a des choses du volleyball que t'as amené? Parce que, me semble, dans ma tête, c'est deux sports complètement différents.
Ben moi aussi, justement, c'est ça que je me dis. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment une différence sport d'équipe, sport individuel. Je me dis, il y a peut-être... un peu d'explosivité au volley qui se transpose bien, mais tu sais, je pense que c'était une éthique de travail qui m'a suivi aussi pendant le volley puis par après qui m'a aidé parce que c'est vrai, tu sais, tout le monde me disait, ça n'a pas rapport, pourquoi tu changes de volley à athlétisme puis pourquoi ça marche? Tu sais, dans le sens, comme vous le dites, il n'y a pas même point commun tant que ça, là, c'est vrai.
Tu parlais d'éthique de travail aussi, on a mentionné en début d'émission que tu étais en médecine. T'es pas la seule en athlétisme, là, du Rouge et Or qui est en médecine.
Oui.
Qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'il y a autant d'athlètes, de gens en athlétisme et en médecine à Laval?
Oui, bien, on s'était déjà questionné là-dessus justement. Puis, tu sais, en tout cas, j'aimais une théorie là-dessus, mais je me dis, tu sais, en médecine, tout le monde est un peu perfectionniste, puis tout le monde a un peu fait toutes ses affaires, puis on essaye en tout cas d'être le plus à couche possible. Fait que j'imagine que cette volonté-là de bien faire, d'être perfectionniste, de comme attarder notre attention aussi sur les petits détails, mais je pense que ça se transpose bien aussi dans un sport qu'on est habitué de concilier plusieurs choses, de toujours vouloir donner le max de soi-même, se dépasser. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui aide un peu.
Ouais, c'est...
Est-ce que le fait justement d'avoir autant de gens qui sont en médecine, ça vous aide, mais est-ce que ça vous amène justement à vous donner un peu cette éthique-là de travail, mais aussi à l'école, de vous dire justement que vous avez probablement des moments, ben, la même charge de travail en termes d'études et tout. Est-ce que ça vous aide justement de savoir que d'autres mondes sont dans le même bateau que vous pendant la saison? Ouais.
Ouais, vraiment. La première session, surtout, je trouve que c'était là la pire. Surtout que moi, justement, j'ai allongé après. Fait que ma première saison, ma première année, en fait, je l'ai eu comme le monde normal, mettons. Ouais. Puis au début, c'est ça que je trouvais difficile parce que j'avais l'impression, justement, j'arrivais chez moi, j'ai ma pratique, j'ai ma muscu, j'arrive chez nous, il est 8h30, j'ai pas soupé. Puis là, le lendemain, on a de l'école, puis là, je regarde mes amis. Mon amie, elle me dit qu'elle était à la page 40 de son résumé. Je me dis, hey boy, j'ai pas lu la première. Ouais. Tu sais, j'ai pas commencé, moi. Puis finalement, j'avais rencontré Emma Dagen, une de mes bonnes amies en athlétisme, puis j'avais dit, tu sais, comment t'es rendu où? Puis elle dit, hey non, inquiète-toi pas, moi aussi, j'ai pas le temps, puis on va gérer ça plus tard, puis comme c'est correct. Puis c'est vrai que ça, c'est encourageant de se dire, ben crème, au moins, on n'est pas tout seul, puis on va s'en sortir de toute façon.
J'imagine que t'en parlais qu'il y a une entraide aussi entre personnes de la médecine. Là.
Ouais. Oui, puis pas juste en athlétisme. En général, les gens, ils vont quand même s'entraider, puis on va pouvoir se donner des petits coups de pouce là-dessus. Là, fait que...
Puis est-ce que, tu sais, y a-tu des périodes qui sont plus dures? Tu sais, je sais, t'as été au championnat canadien l'année passée, si je m'en rappelle bien, mais, tu sais, justement, c'était à Saskatoon,
ouais,
je pense.
Ouais.
Fait que, est-ce que, tu sais, côté études à ce moment-là, quand tu es en plein milieu de la session ou à peu près, ça doit être un moment qui est pas facile. Est-ce que, tu sais, il y a des ententes avec les profs qui sont prises? Est-ce que, tu sais, ou même s'il y a des ententes, à quel point vous êtes capable de justement garder le rythme? Est-ce que vous décélérez un peu pour accélérer après? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui arrivent?
Mais honnêtement, la faculté, ça nous aide quand même beaucoup là-dessus. Là, souvent, on va pouvoir avoir, si on manque des examens, on peut les reprendre. Ouais. C'est quand même assez simple pour ça. C'est juste qu'à un moment donné, même si tu reviens le dimanche, puis ton examen est lundi, c'est quand même ça.
Ouais.
Puis c'était justement ça l'année passée après les U-Sports, là, notre examen était lundi. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu essayes un peu d'étudier en compé, puis tu te dis, ben, au pire, ça sera pas mon meilleur examen, mais on va essayer comme on peut, là, tu sais.
Okay. Ismaël Diouf nous disait la semaine dernière qu'il faisait des devoirs aussi pendant son championnat canadien.
Ouais.
Donc, j'imagine que c'est la même chose pour vous.
Oui, ben, on essaye, mais tu sais, je sais pas lui aussi jusqu'à quel point il était productif.
Ouais, super concentré, là.
J'avoue que moi, c'est pas tout le temps l'étude la plus productive.
Puis en plus, l'an dernier, lors du championnat canadien, tu as subi une blessure, ce qui a fait en sorte que tu n'as comme pas pu faire l'ensemble de tes courses, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Ça s'est passé comment au niveau mental de subir cette blessure-là après une aussi belle saison? Mm-hmm. Si on le sait, tu as fait le record québécois l'an dernier sur le 300 mètres en 38,95, c'est bien ça.
Ouais.
Fait que ça a été comment de faire un record québécois, de rapporter dès le début du championnat, de recevoir la distinction recrue de l'année, puis ensuite de ça, pas pouvoir participer aux compétitions en raison d'une blessure?
Ça va peut-être être niaiseux, comment je vais le dire, mais c'est bizarre parce qu'on dirait l'année passée, c'était juste plein de reconnaissance à chaque fois parce qu'on dirait que je ne m'attendais jamais à avoir ce genre de saison-là.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, plus ça allait, je baissais mes temps. Là, finalement, je vois qu'on a une bonne équipe au 4-4, au 4-2, au 300, ça va bien. Record au 300. Puis là, je me dis, ben mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui m'arrive? C'est donc même fun. Je suis full reconnaissante. Même affaire, j'arrive au début des U-Sports. Ils me donnent ça, recrue de l'année. Ils me disent, ben voyons. Puis là, j'ai comme un moment de, je me dis, hey, voyons, voilà un an, je joue au volley. Puis justement, c'était super le fun. Puis là, je suis en athlétisme. Je gagne ça. Je me dis, ça sort de où? J'étais super reconnaissante. Fait que quand que, finalement, je fais mon 300, puis, ben, on a fait de la qualif du 4-2.
Mm-hmm.
J'avais une crampe de pied. Puis, ça a l'air, c'est pas bon en athlétisme des crampes de pied, mais bon.
J'imagine que non.
Ouais. Le lendemain, j'avais mon 300. Fait que je cours mon 300. Et après, j'ai ma crampe de pied, elle est bonne quand même. C'est une bonne.
Ouais.
Puis, je m'étais classée pour la finale. Fait que là, je me dis encore là, super reconnaissante. Waouh, je suis en finale canadienne. On est rendu là, un pied pété ou un pied pas pété. On est rendu. Je me dis, waouh, c'est normal, fun. Fait que là, cours dessus pour que finalement, après. Là, c'est là qu'on a dit, OK, fracture de stress, c'est fini, on arrête. Le samedi, le 4-2, 4-4, c'est fini. Mais qu'on dirait, ça a été moins dur l'année passée, j'ai l'impression, vu que c'est comme, j'avais vraiment ça, cette vague-là de reconnaissance, de comme tout a été beau, il n'y a rien qui arrive pour rien, la vie est belle, je suis rendue en athlétisme, ça va bien.
Fait que t'es un peu sur un nuage, ça l'a pas nécessairement pété non plus, là.
Pas tant à ce moment-là, okay. Tu sais, j'allais quand même encourager mes amis pour la dernière course, puis on dirait... Dans ma tête, je me disais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Les filles vont gagner une médaille au relais. On va avoir une médaille d'équipe, ça va être le fun, blablabla. Tu sais, ça s'est pas tout passé comme ça, finalement. Mais à ce moment-là, c'est vraiment cette réaction-là que j'ai eue, sur le coup.
Puis ça t'a pris combien de temps pour revenir de cette blessure-là?
Ça a été 2 mois de béquille.
Okay.
Après 2 semaines de bottes de marche. Fait qu'après, tu sors de là, t'as plus de mobilité, t'as plus de mollet. T'as ouais. plus... Fait que, tu sais, par après, ça a été super long. J'ai recommencé à courir en juillet.
Ah oh, oui,
okay. Puis tu sais, courir, mais tu sais, on a sprinté en août, mettons. Fait que ça a été de mars à août, de dire qu'on essaie de remonter à pente, de refaire du mollet là-dessus. Pis...
Est-ce que cette période-là, elle a été difficile?
Un peu plus, oui. Ouais. Là, le nuage, à un moment donné, il s'en va, puis c'est beau de la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, là. Mais fait que c'est là que ça a été plus dur, mais tu sais, on est quand même super bien encadré à ce niveau-là. Fait que ça. Au moins, on avait des ressources à travers ça. Puis, tu sais, au début, t'apprécies un peu chaque petite étape. Fait que là, on enlève les béquilles. Youhou! Après, on enlève la botte de marche. Fait que, tu sais, plus ça va, plus il y a comme des petites évolutions qui arrivent. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme plein de petites réussites que t'apprends à apprécier, là. Fait que...
Est-ce que c'était dur, tu sais, là, t'as recouru en compétition en novembre, j'imagine, ou à peu près, décembre peut-être?
Oui, genre décembre 1,60, ouais. Après janvier, okay. Qu'on recommence.
Puis est-ce que c'était dur de reprendre la compétition après, justement, que tu as probablement manqué les premières compétitions? Est-ce que c'est de quoi qui te faisait peur, ou tu sais, ouais. D'arriver en disant, tu sais, je suis recrue de l'année, là, tu sais, j'arrive clairement pas avec la même forme, ou en tout cas, la même préparation qu'avant?
Oui.
Ouais. Est-ce que c'est dur de reprendre vraiment, espérer d'avoir le même niveau? Parce que, tu sais, pour en avoir fait, je sais, puis avoir fait du sport un peu de ce type-là, ouais. Je fais du vélo, de compétition. C'est dur de dire que je suis pas à mon niveau exactement. Est-ce que c'est dur pour une athlète comme ça de savoir que tu seras peut-être pas au niveau à 100% pour tes premières compétitions?
Oui, tu sais, comme tu le dis, je pense, dans le sport, on veut tout le temps se dépasser puis redonner le meilleur. Puis c'est un peu ça, je pense, que j'avais de la misère au début, c'est d'avoir l'incertitude de dire. Écrire la première compo, ça va donner quoi?
Ouais.
Puis d'être capable d'accepter ça, là, tu sais, de se dire, ben au pire, ça sera pas ma meilleure compo, mais comme tu dis, oui, c'est difficile, je trouvais. Surtout qu'on a commencé la saison avec du 60, puis c'est pas ben mon épreuve, le 60. J'aimerais ça que ça soit plus, mais pas ben.
Ouais.
Fait que c'est sûr que là, je me dis, j'étais un peu plus déçue, puis justement, on veut tout le temps se dépasser, puis fait que c'était, ouais, un peu plus là.
Est-ce qu'il y a une distance que tu préfères? Tu dis que le 60, c'est pas ta préférée. Laquelle ouais. que tu préfères?
Bien, intérieur, je dirais le 300, vu qu'en sprint, c'est juste 60-300. Fait qu'il y a un bon gap quand même. Là. Puis sinon, je pense, je dirais le 200. Ouais, okay. Ça, je trouve, c'est
comment
parfait.
Ça?
Parce que c'est comme 300, ça fait mal. Puis ouais. Les derniers mètres sont durs. Puis c'est un peu moins le fun. 60, c'est bien trop vite. T'sais, ils ont donné le coup de fusil, c'est fini.
Ouais, t'es rendu.
Fait que 200, c'est la distance parfaite que tu te dis, bon. Le départ, ça part un peu, tu sais, ça baisse ton temps. Il est un peu moins bon quand t'as un départ un peu moins bon. Mais au moins, tu sais, ça fait un peu moins mal. Fait que tu finis, t'as eu le temps d'être vite, mais pas eu le temps d'avoir trop mal, mettons. Bon entre-deux.
Je comprends. Ouais. Je me demandais aussi, est-ce que tes études en médecine peuvent t'aider à traverser les blessures? Puis est-ce qu'il y a des choses que tu peux appliquer que tu vois à l'école? Ou...
Ben c'est drôle, tu dises, là, peut-être plus, je dirais, en psychologie, c'est okay. temps-ci que je prends ça. Oh, ouais, j'ai un cours sur la psychologie de la motivation puis des émotions. Okay. Puis je vous le conseille, pour vrai, c'est vraiment intéressant.
Bon, je conseille aux auditeurs.
Ouais, c'est ceux qui entendent, je vous le conseille. Parce que je trouve ça super intéressant, tu sais, surtout dans une période de blessure, tu sais, là, j'analyse un peu tous mes comportements, puis je me dis, OK, là, il faut que je trouve des motivations intrinsèques, OK, comment je fais ça, nanana. Fait que ça, je trouve que ça m'aide un peu plus dans cette période-là okay. que le côté médecine un peu, là, je dirais.
OK. Ouais. Ouais, tu m'enverras tes notes, parce que ça fait 8 mois que je suis à l'arrêt de la course, puis je sais pas quand est-ce que je reviens, fait que...
Une blessure de course?
Ouais, ben j'ai mal au genou, puis honnêtement, je suis allé voir quelques physios, je peux pas te dire exactement ce que j'ai, bien, mais... Ouais. En fait, j'imagine que c'est un peu ton mindset, là, faut que tu fasses tes exercices, puis tu fais ce qui est demandé, puis d'essayer de voir, comme tu dis, aller les petits progrès, puis...
Ouais, mais comme tu dis, des fois, c'est plate quand t'as pas de diagnostic aussi, là, quand on cherche un peu qu'est-ce que t'as. Moi, à chaque fois, on disait, ben, c'est ça, c'est fini.
Ouais. Puis là, tu reviens de compétition, ben tu reviens en compétition à la fin de 2023. Puis là, je veux pas me tromper, tu te reblesses avant les Canadiens.
Exact.
Donc là, tu manques les Canadiens que tu aurais pu faire parce que t'étais qualifié, je pense.
Ouais.
Là, tu sais, c'est quoi le mindset? C'est quoi? Est-ce que c'est une tuile qui te tombe un peu sur la tête? Là? Est-ce que c'est encore plus dur que tes autres épreuves que tu avais eues? Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu avais eu comme épreuve durant l'été l'année passée?
Ben ça, j'avoue que c'est une bonne claque d'en face. On dirait que je l'ai trouvé plus dur celle-là, vu que je me disais, voyons, que ça recommence un peu la même scène. C'était encore une fracture de stress. Fait que je me disais. Pourquoi ça sort tout le temps d'un ciel bleu quand justement là, ça allait bien puis là, ça arrive? Fait que ça, je pense que j'ai trouvé ça plus dur. Mais le troisième orteil, il est moins long que le cinquième. Fait que tu sais, finalement, ça a été juste 2 semaines de maquillage, 2 semaines okay. de bottes. Puis là, on est encore dans le processus d'eux, là, mais je me dis au moins, c'est un meilleur orteil, c'est moins long.
Fait que c'était toujours au pied dans le fond de ta blessure.
Ouais, moi, c'est tout le temps les métatarses. C'était le cinquième métatarse. Okay. Du pied gauche l'année passée, là, on est rendu l'inverse, en tout cas. Le pied droit, troisième métatarse.
OK. Fait qu'on a été sur les deux pieds.
Exact. On a touché les deux pieds, on a testé des orteils différentes. Fait que, comme je vous dis, choisissez le troisième ou le cinquième.
Mais justement, avant de te blesser, t'avais battu ton record sur le 200 mètres à Boston. Fait que j'imagine que tu devais être encore plus motivé à vouloir attaquer le championnat canadien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce record-là t'avait boosté un peu en termes de motivation?
Ben, je dirais, ce temps-là, mais aussi toute la saison, tu sais, en équipe, la fin de semaine d'avant, on avait fait le record du Québec au 4-2. Mm-hmm. Fait que là, c'était super motivant. Là, à Boston, moi, je bats mon temps sur 200. Après, avec l'équipe, on fait le record du Québec au 4-4. Fait que là, finalement, nos deux relais, on se ramasse classé premier au Canada. Fait que là, on dit, ben, crime. Il y a une belle saison qui s'en vient. Nos deux relais sont bien classés. Mon 300 était classé. Fait que, tu sais, oui, on dirait que tout allait dans le sens que je me disais, on va avoir une belle saison, ça va être le fun. Fait que c'est sûr que je pense que ça a peut-être amplifié la claque d'en face après.
OK.
Ouais.
Je peux comprendre.
Puis, tu sais, tu te retrouves là avec, au final, la saison qui se termine clairement. Ben, en fait, pas, il n'y a rien, là, mais il y a moins de. Parce que je pense qu'il y a moins d'aspirations pour l'été en termes de grosses compétitions. Là, tu sais, c'est ta deuxième année là, que tu viens de passer à Laval. Fait qu'il t'en resterait, si jamais tu le veux, 3 encore. Est-ce que, tu sais, comment est la motivation? Est-ce que, en étant athlète, avec les records que tu as déjà à Laval, est-ce que tu as des aspirations en disant, ben là, j'ai encore une autre année l'année prochaine, ou est-ce que je vais pouvoir peut-être encore faire mieux? Dans 2 ans, ça peut être encore meilleur. Est-ce que justement tu rêves à certaines choses? Je sais que tu as été deuxième au Québec, aux provinciaux l'année passée, je pense. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu te dis, OK, il y a telle médaille, il y a telle affaire que j'aimerais vraiment atteindre au relais, ou peu importe, là, que ce soit tout seul ou au relais, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu te dis, OK, c'est ma motivation, c'est comme ça que je veux me rendre justement à être meilleur?
Mais c'est sûr que, justement, c'est un peu ça. Là. Il y a eu un petit creux de démotivation, je dirais, mais que là, j'essaye justement. C'est le côté qui me donne le goût de continuer. C'est plus que, tu sais, même en revenant de ma blessure, j'ai baissé mes temps. Puis c'est un peu ça que je m'en voudrais de pas me rendre au bout de ça. Tu sais, je me dis, j'ai commencé... Ça a été bien vite, puis ça continue de bien aller. Fait que je me dis, crime, tu sais, jusqu'où je peux me rendre avec ça? que justement, tant que mes temps continuent à baisser, on dirait que ça, c'est sûr que je me dis, ben, j'ai comme pas le choix d'aller voir ce que ça va donner, mais j'essaie de comme moins me fixer d'objectifs, justement, de médailles ou de ça, puis plus de me concentrer sur mes performances que je vais faire pour la suite, là, puis voir où ça va mener.
Je me demandais aussi, tu sais, on le sait que dans l'équipe d'athlétisme, il y a Jean-Simon Desgagnés et Audrey Leduc qui sont des espoirs olympiques. Est-ce que ça aide à se dépasser soi-même là, à chaque jour?
Bien, c'est sûr, c'est des beaux modèles pour nous. Là. Ils ont eu des belles saisons en plus cette année. Puis c'est sûr que ça c'est inspirant de voir qu'il y a des gens qu'on côtoie, il y a des gens dans notre équipe. Puis Audrey aussi, sur notre équipe de relais.
Ouais.
C'est sûr que c'est inspirant d'avoir des gens comme ça dans notre entourage aussi. Fait que, comme tu dis, oui, c'est vrai que c'est motivant après à se dépasser puis à continuer là, à donner ce qu'on a.
Là, c'est seulement la deuxième année que tu es là, mais année après année, le Rougeard est dominant en athlétisme. Est-ce que tu as une idée de la recette du succès de Laval?
Hey, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. La recette du succès à Laval, je dirais...
Mais... Étudier en médecine, peut-être?
Non, c'est vrai, ça ressemble à ça. Mais honnêtement, tu sais, on a des bons entraîneurs aussi. Je pense qu'on a des bons athlètes. Puis c'est sûr qu'en ayant des bons partenaires d'entraînement, ça t'aide à te dépasser aussi. Fait que je pense, tant que t'as du bon monde, qui viennent s'entraîner avec du bon monde, mais là, ça fait qu'à un moment donné, on se challenge tout à donner le meilleur de nous-mêmes. Fait que je dirais peut-être que ça peut faire partie de la recette un peu. Ouais.
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 Je me demandais aussi, c'est comment évoluer dans un sport individuel, mais comme dans une équipe. Le volley, c'est un sport d'équipe. Tu performes, c'est ton équipe qui fait les points, qui gagne les matchs, qui perd les matchs. Tandis qu'en athlétisme, ben oui, il y a le relais, mais sinon, tu compétitionnes un peu pour toi.
Ouais.
Mais dans un environnement d'équipe, c'est comment vivre ça?
Mais j'avoue, moi, j'avais fait le saut au début. Mettons, 100% en aide, je me disais, au volley, c'est ça. Après un match, tout le monde va être content. Même si t'as pas joué le meilleur volley de ta vie, t'as gagné. Fait que t'es content avec tes amis, puis c'est bien le fun. Puis quand tu perds, tout le monde est marabout, puis c'est ça. Tandis qu'en athlétisme, des fois, je trouvais au début que c'était des drôles d'ambiance, parce que toi, tu vas avoir fait la course de ta vie, puis l'autre, pire course de sa vie. Puis là, t'as ta joie de vivre à cacher, mais pas trop. Ouais. Mais fait que ça, je trouvais ça un peu particulier au début d'avoir fait sport d'équipe à sport individuel. Mais tu sais, je trouve qu'il y a quand même un bel esprit d'équipe, que tout le monde s'encourage le plus possible entre leurs épreuves. Mais c'est sûr qu'il y a une différence quand même, sport d'équipe, sport individuel à ce niveau-là.
Ouais, puis tu sais, par rapport à ce que tu dis, c'est exactement comme ça que je le vis aussi. J'en ai fait du sport d'équipe, puis tu sais, du vélo, des courses de vélo. Tu sais, oui, c'est en équipe, mais tu sais, tu peux avoir la performance de ta vie sur une course aux États-Unis où est-ce que tu dis, j'aurais jamais fait de performance, mais là, tout le monde au final a pas une bonne course, puis tu sais, au final, t'es content, mais en même temps, tu sais, ça reste l'équipe qui doit performer. Puis la raison, tu sais, pourquoi vous êtes là, c'est le fait que Laval est là, puis que vous avez justement cette structure là qui vous aide. Puis tu sais, vous avez pas juste un coach par athlète. Fait que c'est vrai que côté ambiance, ça doit être tout le temps spécial de vivre ça. Puis même dans les entraînements, de dire, tu sais, okay, telle personne n'a pas nécessairement l'entraînement de sa vie ou le stretch de sa vie pour X raisons. Mais tu sais, il y a du support à donner. Mais clairement, il y a une dynamique d'équipe qui est complètement différente par rapport à ce que tu as dans un sport d'équipe. Là, c'est clair, 100%. Clair, clair. Puis, tu sais, est-ce que, au final, quand vous arrivez justement avec justement les médailles que vous êtes allé chercher aux provinciaux, est-ce que justement, comment vous faites pour vous motiver en équipe? Tu sais, vous retrouvez à être pas loin du podium cette année. Là. Je sais que t'étais pas là, mais au Canadien, vous êtes cinquième, je pense. Ouais. L'année passée, c'était à peu près ça aussi.
Ouais, quatrième.
Ouais. Est-ce que y a-tu une espèce de motivation de plus de voir que vous êtes vraiment à ça, de l'avoir le podium, que c'est déjà arrivé dans l'histoire à Laval, donc c'est possible de le faire? Est-ce que en équipe, il y a cette espèce de volonté-là qu'on peut avoir dans des sports d'équipe comme le volley, de dire, hey, nous, on peut gagner le championnat canadien? Mais là, est-ce que justement, il y a ça de dire, en équipe, on peut faire de quoi de plus grand, puis d'aller chercher un podium collectif?
Oui, bien, comme tu le dis, c'est vrai, tu sais, avant chaque U-Sport, on a un peu des objectifs, puis on se dit, tu sais, c'est sûr qu'en équipe, on vise tout un peu ça, puis justement, c'est les petits points qui font la différence. Fait que des fois, quelqu'un qui va être classé 9-10e va se dire, ben, crime, mettons, je finis, je monte un peu de positionnement, je pense que c'est les 8 premiers ou 6 premiers.
Oui, je pense ça.
Puis justement, tu montes un peu, puis là, tu fais un petit point. Puis ce qui arrive, c'est que le point que tu fais, t'en enlèves aussi. Fait que, tu sais, finalement, ça peut se jouer sur des petits points. Tu sais, les gars, ils ont fait une belle surprise cette année en finissant troisième, que c'était pas vraiment attendu, mais justement, en faisant leur performance, ça fait baisser les autres. Puis là, finalement, tout peut arriver en championnat. Fait que, oui, tout le monde veut donner le meilleur de soi. Puis je pense ça nous donne tout un petit kick de plus à vouloir se donner encore plus. Puis pour nous, puis pour l'équipe aussi. Là.
Puis avez-vous des attentes ou des objectifs pour l'année prochaine?
C'est une bonne question. Probablement que oui. Je me dis, au relais, on va avoir à peu près les mêmes équipes. Fait que j'imagine qu'on va quand même aussi avoir des objectifs par rapport à ça. Même affaire à Laval, je pense qu'on perd pas trop de personnes, si je me trompe pas. Là, peut-être que j'essaie de penser vite, fait que j'oublie vraiment des gros morceaux. Là, mais je sais qu'on perd des gros morceaux, mais qu'il va en rester des bons. Fait que je pense qu'on peut encore aspirer à des bonnes performances.
Puis est-ce que les entraîneurs, c'est ce qu'ils disent? Mettons, OK, on vise, par exemple, la troisième place, ou c'est pas vraiment de quelque chose qui est parlé, puis c'est plus concentrez-vous chacune sur vos épreuves respectives, puis on verra par après. Comment que ça se passe à ce niveau-là?
Bien, comme tu le dis, je pense pendant la saison, tout le monde est un peu plus axé sur sa performance, puis les épreuves d'équipe, moins le classement final. Sauf que plus on approche des U-Sports, tu sais, en regardant, parce qu'à chaque année, à chaque fois que tu fais une performance, ça rentre dans un top 12 U-Sports. Ouais. Puis après, avec ce top 12-là, ils regardent, puis ils disent, bon, quelle équipe sont en tête? Puis en se fiant à ça, après, ça, on est capable d'estimer à peu près on va être combien. Fait que, tu sais, tout dépendant, on est combien. Tu sais, cette année, on l'avait regardé avec l'entraîneur, je me rappelle, puis je pense qu'on était pas mal ça, cinquième. Puis là, il faisait le calcul, mettons, tout le monde bat un peu, ça. Puis tu sais, c'était quand même difficile cette année de dire, hey, on va aller chercher un podium. C'était pas irréaliste, mais je pense qu'avant, qu'il va pas vendre le rêve à tout le monde en disant, hey, on est à côté du podium, vu qu'on avait calculé, puis c'était ça allait être un gros mandat, mettons.
Je comprends, OK.
Je me demandais, est-ce qu'il y avait un moment dans ta carrière sportive, le soit au volleyball ou en athlétisme, ou des moments, en fait, qui t'avaient marqué ou que tu regardes dans le passé, là, que t'aimes beaucoup?
Honnêtement, j'avoue, le moment de la recrue de l'année, ça a été un moment où vraiment, je pense, un de mes plus beaux moments, vu que justement, je réalisais un peu tout ce qui m'arrivait, puis que c'est vraiment là que je me disais, voyons, c'est donc bien le fun de se dire que j'ai pris cette porte-là puis que ça m'a mené là. Sinon, au volley, c'est sûr que je me rappelle notre demi-finale au championnat canadien. C'était un beau moment, vu que là, on savait qu'on passait pour la prochaine étape. Fait que c'est aussi collégial. Même chose, ma dernière année de volley. T'sais, j'en ai un peu plein en tête, comme tu dis, là, des moments que tu te dis, crime, je regarde ça, puis c'était super le fun. Là.
Est-ce que quand tu reçois la recrue de l'année, parce que je sais qu'il y a des moments, des fois, où est-ce que les athlètes sont pas là ou qui sont pas sur place, mais toi, t'étais sur place pour le banquet. Fait que, je veux dire, ils te nomment, puis c'est là que tu te lèves, puis ça en va devant la scène, puis prendre ton prix, j'imagine, c'est ça. Là.
Oui, c'est vraiment ça.
C'est un moment que tu fais, OK, tu te lèves, tu es comme, ouais, OK, qu'est-ce qui m'arrive? Là?
Qu'est-ce qui m'arrive? Puis on dirait, t'entends ton nom, puis t'attends que Frédéric Chasson se lève. Vas-y, ton nom. Oui, pour un moment donné, c'est comme... Je pense que c'est Jessie, elle me dit... Vas-y. C'est comme, OK, moi j'y arrive, let's go.
Puis toute l'équipe est là, à ce moment-là, à ce banquet-là. Non. Je disais, non, il y a juste le monde qui sont nommés.
Exact.
OK, mais il y avait quand même du monde de Laval qui était nommé, t'étais pas la seule.
Non.
Fait que j'imagine qu'il y a du monde qui te félicite, puis t'es sur un nuage, là, parce que le banquet est avant les compétitions,
exactement,
je pense.
Exactement,
Fait qu'au final, tu rentres à l'hôtel, t'es comme, bon, là, c'est le temps que je me concentre pour les compétitions, mais tu sais, j'ai ça dans les mains, là, qu'est-ce que... Fait que j'imagine que... Est-ce que t'es capable, justement, de faire le vide, ou pas de faire le vide, mais de te concentrer après ça pour tes compétitions? Est-ce que c'est de quoi qui t'a... Ben, pas te déranger, mais qui te motive ou qui pas qui te nuit, mais qui t'amène un peu à penser différemment pour la course? Est-ce que c'est une pression qui était plus grande pour toi, ou c'est une pression qui s'est enlevée avec le fait de savoir que, crime, finalement, j'ai ma place ici?
Un peu plus enlevée, je dirais, sur le coup, parce que même, on dirait qu'en arrivant au championnat canadien, ma première année, j'avais pas ben pression tant que ça, dans le sens que au début de l'année, je me rappelle, le coach m'avait dit, puisqu'on se connaissait pas, puis je l'aime, là, s'il a jamais entendu ça un jour, là, mais il m'avait dit, hey, tu sais, cette année, tu penses-tu aller au U-Sport? Puis il m'avait dit, j'aimerais ça. Puis là, il était comme, quelle épreuve? Tu sais, moi, je visais plus avec les relais, vu que c'est souvent plus accessible. Fait que finalement, en fin d'année, quand j'arrive, je suis classée ces deux relais au 300, mais on dirait mes objectifs de saison, en quelque sorte, étaient comme un peu accompli, finalement, un record au 300. Fait que là, on dirait que c'était comme plus beau que ce que j'aurais pu penser. Fait que rendu au Canadien, je me disais juste que d'être là, j'étais super reconnaissante. Fait qu'on dirait, même en ayant ce prix-là, ça l'enlevait un peu de pression de dire, crime, finalement, j'ai bien fait de changer de sport, peut-être.
Clairement.
Finalement.
Je crois que ta question, parce que moi aussi, je trouvais ça spécial que le gala soit avant la compétition. Parce que j'imagine que pour certains athlètes, ça peut venir jouer dans la tête, puis à la limite, peut-être avoir une influence sur les performances qu'ils peuvent avoir pendant la compétition. Exemple. Je demande, penses-tu que ça serait mieux de mettre ce gala-là, le banquet, après la compétition?
En tout cas, dans mon cas, ça a été bien que ça soit avant, finalement.
Vu qu'on
a fini pied, mais dans le sens, il y a quand même, tu sais, là, par exemple, l'athlète de l'année a est avant le gala, mais par après, il y a un athlète du championnat.
Ouais.
OK. Fait que ça, je trouve ça quand même correct parce que je me dis, tu sais, au bout du compte, c'est pas nécessairement une compétition qui fait de toi un bon ou un mauvais athlète parce qu'il y a toute la saison aussi avant.
Absolument.
Fait que je trouve ça correct pour ça que ça soit avant, mais comme vous avez dit, peut-être que là, une fois que tu gagnes ce prix-là, tu pars la tête qui rentre plus dans les cordes de poids. Je sais pas. T'sais, peut-être que ça fait ça à quelques personnes.
Ce qui doit être compliqué, c'est logistiquement. Là, je veux dire, c'est un peu bureaucratique ce que je veux dire. C'est un peu plate, là, ce côté gris, là, mais ça reste, c'est compliqué parce que le gala devait être le jeudi soir ou le vendredi soir dans ce coin-là. Puis là, après ça, en tout cas, vous étiez à Saskatoon, fait que vous êtes probablement parti le dimanche soir super tard en avion pour revenir. Fait que c'est un peu compliqué parce que là, après ça, faudrait que tu mettes le gala juste avant que les universités repartent.
Ouais.
Fait, en tout cas, c'est la réponse un peu grise que j'ai donnée.
C'est un bon point. Ouais.
Mais parce que tu sais, je veux dire, à Laval, quand on a eu les championnats de basket, c'est un peu ça aussi le problème, c'est que tu sais, les athlètes arrivent durant la semaine, là, entre le mercredi puis le jeudi, puis là, après ça, le dimanche, tout le monde est parti. Fait qu'au final, c'est vraiment complexe de dire, on va mettre un gala le dimanche soir. Ouais. Tu sais, faut que tout le monde finisse par prendre l'avion. Tu sais, t'as de l'école le lendemain. Fait que normalement, il doit y avoir une entente avec l'université qui dit que le lundi, tout le monde est revenu. En tout cas, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais probablement que vu que, tu sais, c'était ça aussi avec le foot, là. Je veux dire, le foot, les gars revenaient à des heures pas possibles. Et je veux dire, c'est ça pour tous les sports, au final.
Non, c'est vrai, c'est une bonne piste. Puis je me demandais, pour faire un autre lien là, entre le prix que tu as reçu et la blessure que tu as subie, je me posais la question, penses-tu que tu aurais brûlé certaines étapes ou dans le fond que tu as été trop vite, tu t'en es mis trop sur les épaules de vouloir performer autant dès la première année?
Ben honnêtement, ça fait partie de mes pistes de réflexion ces temps-ci que justement, on dirait que c'est un couteau à double tranchant que ça a été bien aussitôt. Mm-hmm. Parce que je trouve la première année, c'est le fun, tu as un beau rôle d'underdog, fait qu'à chaque fois... C'est comme tu te surprends toi-même, tu te surprends un peu autour, mais qu'après, justement, on dirait que personnellement, je me suis peut-être mis une pression de plus que j'aurais pas eu, justement, si finalement ça avait pas été aussi bien. Okay. Fait que je pense que c'est de trouver un juste milieu entre, ben, il y a mes aspirations personnelles aussi, puis après, c'est de pas trop se laisser influencer par la pression aussi autour, là.
Okay.
Mais oui, je pense qu'il y a peut-être des étapes que, tu sais, ça allait bien, j'étais capable d'en prendre, fait qu'on en donne, mais. Peut-être
fait que
finalement.
T'as fait subir beaucoup de stress mécanique
exact.
À ton corps. Là,
peut-être, qui était nouveau. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm.
Puis aussi, tu parlais que vous êtes suivi par des thérapeutes, mm-hmm. Justement, suite à ta blessure. Mais est-ce que vous êtes aussi suivi par des professionnels de la psychologie ou pour amener comme un peu plus ce côté-là de la psychologie mm-hmm. du sport puis vous supporter là-dedans? Est-ce que vous avez du support à l'Université Laval avec le Rouge et Or?
On a accès, dans le fond, à deux psychologues.
Okay.
Chaque athlète a comme une rencontre gratuite, puis après, c'est à nous de décider si on fait le suivi.
Okay.
Mais c'est plus en psychologie, je dirais, qu'en préparation mentale.
Okay.
Parce que dans le Rouge et Or, en tout cas, à moins que je me trompe, vu que justement, c'est nouveau encore, là, mais je pense qu'on n'a pas accès à de la préparation mentale, à moins d'y aller par nous-mêmes, justement, avec des gens à l'externe.
Est-ce que tu penses qu'il pourrait en avoir plus qui soit donné, qui soit mis de l'avant?
Oui, je pense honnêtement que ça pourrait être une belle ressource, vu que justement, tu sais, je suis pas la première ni la dernière qui va avoir des blessures, puis je pense que c'est une partie importante après de se dire, bon, ben, crime, on revient, qu'est-ce qu'on peut changer, comment qu'on perçoit ça, l'adversité face aux blessures, je pense que ça pourrait vraiment être pertinent.
Parce que souvent aussi, ce qu'on entend des athlètes qui sont blessés, c'est que l'aspect le plus difficile, c'est pas la blessure en soi, mm-hmm. mais c'est vraiment tout ce que ça apporte comme conséquence psychologique de pas mm-hmm. pouvoir faire du sport, baisse de motivation à plein de niveaux. Il y en a même que je connais des gens qui se sont blessés au niveau sportif. Puis ensuite, c'est difficile tout simplement d'étudier puis de se préparer ses examens. Pourtant, ça n'a aucun rapport. Je sais pas si ça a été ton cas ou pas, là, mais... Fait que, je pense que ça serait pertinent de...
Ouais.
Mais ça, c'est dans tous les côtés de la vie, là, d'avoir plus de ressources psychologiques... Pour se préparer.
Oui, exact. Ouais. Tantôt, on parlait du gala aussi, Emery. Je pense que tu avais une question par rapport à la piste d'athlétisme.
Oui, oui. Ouais, c'est vrai, on en parlait avant de rentrer en onde. Le PEPS ici à l'Université Laval, l'an dernier, ils ont refait leur piste d'athlétisme 200 mètres intérieur. Et puis, les courbes sont plates. Fait que c'est plat. Là, puis, cependant, il y a certains circuits. J'imagine les meilleurs circuits de piste intérieure, dont Boston, où est-ce que les courbes ils ont une certaine inclinaison. Ce qui aide les coureurs de courte distance, notamment les sprinteurs. Puis, est-ce que tu penses que ça peut avoir une influence justement sur les risques de blessures pour les athlètes, le fait qu'il n'y ait pas une inclinaison dans la piste au PEPS?
Je sais pas si sur le risque de blessure, puis tu sais, il n'y a pas grand monde, c'est drôle à dire, mais présentement, dans notre gang de sprint, la piste au PEPS, c'est vraiment pas notre préférée en tant que telle, vu que justement, elle est flat. Puis on trouve justement que les courbes sont quand même dures à prendre souvent quand t'arrives vite puis que ça fait des bonnes courbes.
Ouais.
Mais, fait que, comme tu dis, je sais pas si c'est direct en lien avec le risque de blessure, mais c'est sûr qu'en des fois en entraînement, on trouve ça rough un peu sur le corps de tout le temps prendre les courbes rapidement.
Puis aussi, tu m'expliquais avant d'entrer en onde, puis ça, c'est un élément que je connaissais pas par rapport à l'athlétisme, c'est que les temps sur une piste flat sont différents, sont pas perçus de la même façon que les temps sur une piste courbée. Peux-tu nous expliquer comment que ça fonctionne à ce niveau-là?
Oui, exact. C'est qu'ils jugent, dans le fond, que quand tu as une piste inclinée, ben ton temps est supposé être plus rapide. Tu es avantagé vu que tu te fais moins déporter par la courbe.
Mm-hmm.
Fait que quand tu cours ton temps sur une piste qui est inclinée, c'est directement ton temps. Mais quand tu cours sur une piste qui est flat, qui n'est pas inclinée, ils prennent comme pour acquis que ben, les courbes vont être plus difficiles ou je sais pas trop. Puis il y a un calcul qui se fait pour te donner une conversion à ton temps. Fait que des fois, ton temps qui s'affiche va être meilleur que ton temps que tu avais déjà fait ailleurs vu que justement, ils utilisent ta conversion. Puis c'est cette conversion-là que nous, on utilise dans le fond pour le classement U-Sport.
OK. Puis de façon générale, est-ce que les meilleurs temps sont quand même faits sur les pistes inclinées même s'il n'y a pas de temps qui est modifié? Où il n'y a pas vraiment de différence au bout du compte entre les records sur piste flat ou inclinée?
Mais honnêtement, je pense que ça s'équivaut quand même beaucoup. L'année passée, au début, je me disais tout le temps, hey, c'est bien plus avantagé, les pistes flat, ça fait une belle conversion, mais finalement, pas vraiment.
OK.
Oui, je trouve que c'est vraiment, ça s'équivaut. T'sais, le temps qu'on avait fait à Saskatoon sur une piste flat, finalement, converti, c'était pas mal le même temps que j'avais fait de la fin de semaine d'avant sur une piste inclinée. Fait que je pense que c'est.
Oui, puis toi, tes records sont sur quel genre de piste?
Parce que justement, un record, tu peux pas le faire avec une conversion.
Okay.
Fait que moi, mon record, j'avais vraiment couru incliné à McGill.
Okay.
Sauf que, tu sais, cette année, on est allé au Nouveau-Brunswick à une compétition. Puis là, sur une piste flat, techniquement, j'aurais battu mon record. Mais tu sais, mon record, c'est 38,95. Sur une piste flat, j'ai fait 39,23, qui donne 38,68. Mais 38,66, il n'existe pas.
Ouais.
Il existe dans mon ranking au Canada, mais il n'existe pas.
Puis la piste flat, la piste inclinée la plus proche, c'est Boston. La compétition qui est la plus accessible pour vous pour faire ce genre de temps-là qui sont véridiques en quelque sorte, c'est à Boston que vous pouvez les faire ou il y a d'autres pistes?
Il y a McGill,
OK.
Il y a McGill, mais en tout cas, tu sais, moi, je pense que je suis pas encore une pro des pistes puisque je vois pas toutes les différences, mais ça a l'air qu'à McGill, c'est pas une piste qui roule.
Okay.
Mais qu'à Boston, il y a la magie qui se passe puis que ça rebondit plus. Fait que tout le monde court plus vite à Boston qu'à McGill. Fait que je pense pour ça que tout le monde va un peu à Boston pour la magie de Boston qui se passe là.
C'est intéressant.
Ouais.
En terminant, à quoi ressemble ton été qui s'en vient côté sportif?
Ben là, c'est sûr, il va avoir toute la réhabilitation, mais je pense que ça devrait pas être si pire. Fait que je touche du bois, là, mais idéalement, on aimerait ça les championnats canadiens peut-être en juin.
Okay.
Puis après, devoir faire des compétitions pour essayer de baisser mes temps, vu que je pense pas qu'en juin, ça va être encore...
Parfait.
Ça va pas faire si longtemps que je vais avoir recommencé, mais ça va être un peu ça.
Est-ce que vous êtes encadré dans votre entraînement? T'sais, j'imagine, je sais pas si tu retournes voir ta famille, ou est-ce que c'est chacun un peu de son côté, ou comment ça se passe un été avec le Rouge et Or?
Ben cet été, on aura encore pas de piste. Fait qu'on va voyager pour aller à Montmagny, on va s'entraîner un peu dedans, un peu au centre de glace. Fait qu'on a notre entraîneur, puis fait qu'on se promène un peu.
La piste sera pas prête durant l'été au complet?
Non.
Puis c'est quoi? Est-ce qu'elle va être faite, mais il y a un temps qu'il faut qu'elle ou elle va juste pas être faite? Ou...
Je pense, parce qu'au début, on s'est fait dire, je pense qu'on allait l'avoir à la fin de l'été parce qu'on était supposé accueillir les provinciaux.
OK.
Mais je pense que ce projet-là, il est mort puis qu'on n'aura pas de piste de l'été, finalement.
Ah, c'est dommage, quand même.
Vous devez vous déplacer chaque fois à Montmagny pour faire cette...
Ouais. Mais je pense qu'on va essayer de faire, mettons, une fois semaine, les vendredis, quand justement, c'est des trainings plus spécifiques. Dans le sens, sur un 60 mètres, on peut le faire en dedans puis on prend pas de courbe rendu là.
Ouais.
Mais que plus pour les courbes, ben les trainings comme ça, on va peut-être aller à Montmagny, justement, les faire.
Okay.
Puis Frédéric, pour finir, là, ça serait quoi ton plus grand rêve ou tes plus grandes aspirations pour ta carrière d'athlétisme?
C'est une bonne question. Honnêtement, c'est sûr que j'aimerais ça des médailles U-Sport. Fait que je dirais ça pour là, mais je veux pas trop me mettre de limites.
Mm-hmm.
Fait que je vais voir où ça va mener, puis on va prendre... Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, mais je dirais une médaille U-Sport.
C'est un très bon objectif, quand même. À suivre.
Sur ce, merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. C'était super le fun de te parler.
Ouais.
Au retour de la pause, on va parler de plusieurs sports, donc on n'a pas l'occasion souvent de discuter ici à Conti Antisportive. Restez des nôtres sur Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Tous les vendredis à 13h30 sur Chiz 94,3 FM.
Le Palais Montcalm vous offre une soirée festive à petit prix avec Liliane De Francesco. Découvrez cet artiste qui s'est fait connaître à l'émission La Voix et qui, depuis, ne cesse d'épater la critique partout où elle passe. Véritable bête de scène, elle déploie une pop bilingue, rythmée et accrocheuse. Présenté à 21h en admission générale debout. L'occasion parfaite de prendre un verre, d'apprécier une artiste émergente et de se déhancher sur ses succès. Seulement 10$ pour les 30 ans et moins. Ne ratez pas Liliane De Francesco le 12 avril au Palais Montcalm.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invité, interview et défi de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Je suis un animal à ne pas plaire aux autres.
Rebienvenue sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Conduite Antisportive. On vient d'avoir Frédéric Chiasson, athlète en athlétisme, parmi nous. On va enchaîner avec des sports, comme on disait avant de rendre l'antenne, des sports qu'on parle pas une tonne ici à Conduite Antisportive, mais là, c'est leur moment de gloire. L'équipe masculine de soccer a remporté son dernier match de la saison en fin de semaine contre le Varéor de Sherbrooke par la marque de 7-2. Emery, ici en onde, est très excité. Donc, mais il y a raison d'excité, parce que Laval termine sa saison avec une fiche de 4 victoires, 1 défaite, 1 nul. Victoire provinciale là, pour le championnat ici de la RSEQ. C'est une courte saison, on le sait, à l'intérieur, moins grosse là, qu'à l'extérieur, mais ça met la table pour la prochaine saison extérieure qui va commencer à l'automne prochain. Et Emery, tu peux nous parler de tennis aussi. Beaucoup de succès ici à Laval.
Oui, beaucoup de succès au tennis également. Merci Charles. Alors, en fin de semaine dernière, nos équipes masculines et féminines affrontaient l'Université Concordia. Victoire chez les hommes de 6-1. Victoire chez les femmes de 7-0. Alors, ces victoires qui permettent à nos équipes d'être sacrées champions du circuit RSEQ, autant chez les hommes que chez les femmes. Alors, pour revenir sur la saison, là, nos dames qui ont une fiche parfaite de 10 victoires, 0 défaite cette saison. Chez les hommes, c'est une fiche de 9 victoires, 1 défaite. Et puis, les championnats provinciaux qui arrivent les 29, 30 et 31 mars prochains.
Ça va être à surveiller, je veux dire... Excellente saison, autant chez les hommes que chez les femmes. Du côté du cheerleading, l'équipe du Rouge et Or a remporté la médaille de bronze aux championnats provinciaux. La meilleure note de la saison pour la deuxième routine a permis à l'équipe de cheerleading de remporter justement la médaille de bronze. L'exploit a été réalisé sans l'athlète par excellence de l'équipe, Florence Rodrigue, qui était absente à cause de blessures. D'ailleurs, leur première routine là, de la compétition a été plus difficile. Là, quelques chutes, plusieurs points déduits. Mais à la fin de cette routine-là, le Rouge et Or figurait dernier au classement. Mais une grosse deuxième routine, là, la meilleure de l'année, leur a permis de remonter au classement et de remporter la médaille de bronze. Du côté du badminton, Frédéric Labbé a atteint les quarts de finale des championnats provinciaux. D'ailleurs, elle qui était l'athlète féminine par excellence du RSEQ en simple. Sa coéquipière Maggie Aymon-Brisson a aussi atteint les quarts de finale. Et chez les hommes, le capitaine de l'équipe, Nathaniel McKenzie, a aussi réussi à atteindre les quarts de finale, dont en remportant deux longs matchs là, très serrés. Finalement, s'est incliné contre Harold Tan, qui a gagné la médaille d'argent. Et Emery, aussi du succès en ski de fond.
Oui, en ski de fond, c'est important de mentionner la performance de Nicolas Beaulieu, qui a vécu un hiver vraiment spectaculaire. Et puis, au championnat canadien, il a récolté 2 médailles d'or. Alors, toute qu'une performance de Nicolas Beaulieu en ski de fond.
Victor, depuis le début du retour en onde, t'es un peu sur le banc des punitions, si on peut dire comme ça, mais c'est à ton tour de faire ton retour sur la glace. C'était si je me trompe pas, le combine, c'est comme ça qu'on l'appelle pour les joueurs du réseau universitaire pour en vue du repêchage de la Ligue canadienne de football.
Oui, bien, un combine, on précise de le traduire, là, c'est un espèce de camp d'évaluation là, pour le repêchage qui s'en vient. Repêchage qui aura lieu, si ma mémoire est bonne, le 30 avril. Donc, un repêchage qui va justement regrouper toutes les équipes de la Ligue canadienne de football et qui va justement permettre à certains joueurs de Laval de se faire repêcher. C'est clair qu'il va y avoir des joueurs du Rouge et Or et du RSEQ qui seront repêchés. La question, c'est de savoir où ils seront repêchés. On le sait que dans la dernière liste des joueurs admissibles pour ce repêchage-là, dans la liste des meilleurs joueurs, des 20 meilleurs joueurs, il y avait 2 joueurs du Rouge et Or qui étaient présents. Nathaniel Dumoulin-Duguay, 18e sur la liste, et Kevin Mittal, 20e sur la liste. Tu sais, Charles, je pense qu'on en avait déjà parlé durant l'été, mais avant que la saison commence, Kevin Mittal était vu comme peut-être le plus beau espoir au Canada. Là, avec la saison qu'il avait eue, on se disait s'il continue à être aussi bon, ben il peut peut-être même sortir premier, deuxième, troisième si ça va vraiment mal. Là. Et là, finalement, il y a eu des problèmes juridiques qu'on a amplement parlé, mais aussi des problèmes de blessures, a manqué des matchs, a pas été à 100% à 100% peut-être un match de l'année. Une saison un peu en dents de scie pour lui. S'est retrouvé à être 20e, ce qui est quand même bas pour lui, là, pour un joueur qui a gagné le joueur par excellence en n'étant pas un carrière. majeur. C'est rare que ça arrive dans le U-Sports. Et là, on doit se demander justement, est-ce qu'il va sortir vraiment dans le top 20? Est-ce qu'il va sortir plus tôt, plus tard, dépendamment de comment ça se passe durant le camp d'évaluation? Mais c'était aussi de savoir, avec ses antécédents judiciaires, est-ce qu'il y a des équipes qui allaient être peut-être un peu plus frileuses à repêcher ce genre de joueurs-là? Ben, Kevin Mittal a eu un excellent camp d'évaluation, là. A finalement été dominant durant les situations de match, parce que justement, une journée où est-ce que c'est des situations de match avec des jeux qui sont faits par les receveurs, par les carrières, par toutes les positions, en fait, là. Et durant les évaluations, un temps de 4,58 aux 40 verges, qui est excellent, sixième au total, troisième chez les receveurs à la course des trois cônes, deuxième des receveurs pour les développements couchés. On le savait, c'est un receveur qui était physique à Laval, qui était gros, qui était fait pour justement être dans le trafic. Ben, il l'a montré avec la force qu'il avait au développement couché. Et là, plusieurs analystes de la Ligue canadienne l'ont vu comme une des étoiles de la fin de semaine. Est-ce que justement, ça va l'aider à peut-être être repêché en première ronde? On verra.
Est-ce qu'il peut rester au Québec?
Peut-être, c'est ça que j'allais dire justement. Oh. Là, beaucoup parlent de lui comme peut-être un des joueurs qui pourrait être à la fin de la première ronde, début de la deuxième, si jamais ça va vers là pour lui. Les Alouettes ont le 9e choix au repêchage. Donc, est-ce que ce 9e choix-là, cette fin de première ronde-là, ça pourrait être le fit parfait pour lui? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça a l'air d'être un mariage parfait? Je pense que Danny Machocha doit adorer ce que Kevin Mittal peut amener à son équipe. Je suis pas un spécialiste des Alouettes et de la Ligue canadienne de football. Est-ce que les Alouettes ont besoin d'un receveur nécessairement? Je pense que c'est une position qui... Justement, si t'as un excellent joueur qui arrive, c'est une position où est-ce que t'as besoin d'avoir un peu de profondeur. Donc, si jamais Kevin Mittal est là, au 9e choix, je serais pas surpris de le voir sélectionné par les Alouettes. Est-ce qu'il va sortir plus tôt? Est-ce qu'il va sortir plus tard? Ben, écoute, ça sera à voir.
Il y a combien de rondes? Il y a combien de tours au repêchage?
Ouais, okay. Il y a 8 rondes. Donc, okay. On peut faire le calcul, mais 9, à peu près 9 choix par ronde, là. Fait qu'il y a autour de 90 là, choix qui vont être
faits. Les Alouettes, ils ont le 9e. C'est quoi, ouais, leur, les autres choix?
Je l'ai là, sous les yeux. Ils ont le 9e. Mais après ça, ils n'ont pas de choix de deuxième ronde. Un choix de troisième ronde, donc 29e. Donc, dépendamment, il y a des échanges qui peuvent être faits.
Si Mittal n'est pas repêché par les Alouettes, au 9e rang, au en première, ouais, ronde.
Ça serait étonnant.
Étonnant qu'ils puissent le récupérer, ouais, après. Ouais. Là.
Okay. Moi, si j'avais une prédiction à faire, j'irais avec le fait qu'il se fasse repêcher en première ronde, 9e.
Okay. Je pense que c'est les chances qu'il soit avant que
une équipe tente ça. Peut-être, avec le potentiel qu'il a montré, je pense que toutes les équipes en avant des Alouettes doivent regarder ce joueur-là, voir ce qu'il a fait, mm-hmm, et se dire, écoute, ce joueur-là peut vraiment être un joueur qui change complètement notre équipe, parce que c'est vraiment ça qu'il a fait au niveau universitaire. C'était un adulte avec des enfants dans les matchs universitaires qu'il a joué l'année passée, pas cette année, mais l'année passée. On verra justement qu'est-ce que ça donnera pour lui, mais je pense que s'il sort plus loin que la première ronde, ça risque d'être un grand oublié de la première ronde, et ça risque d'être vraiment peut-être le choix le plus avec le plus gros potentiel d'être un j'ai juste steal en tête là, c'est quoi
un vol.
Donc la meilleure chance d'avoir un vol avec ce joueur là mais un autre joueur du Goujard qui a aussi des chances d'être ce genre de vol là, c'est Nathaniel Dumoulin-Duguay. Glenn Constantin en a parlé beaucoup durant les dernières années, à quel point ce joueur là qui vient de Rimouski, qui joue en division 3 collégiale, à quel point ce gars là était dominant, à quel point ce gars là était un des joueurs sur la ligne que Glenn Constantin avait vu jouer, un des meilleurs joueurs sur la ligne que Glenn Constantin avait vu jouer à Laval et même au Canada, était déçu de le voir perdre il y a 2 ans le joueur de ligne offensive de l'année. Cette année a eu un peu plus de difficultés avec des blessures aussi, mais c'est un gars qui est physiquement tellement solide. Écoute, durant le camp d'évaluation, a été le meilleur du côté de la ligne à l'attaque. Il y a beaucoup de bons espoirs sur la ligne à l'attaque au Canada, mais a été premier sur le 40 verges, sur le 3 contre, sur la navette, sur le saut à longueur. Je pense qu'il est 2e pour une autre affaire, 3e pour les développements couchés.
Si je me trompe pas aussi, son 40 verges, il est beaucoup en avant du 2e.
Oui, exact. Non, ça, c'est physiquement, ça a été de loin la meilleure performance des joueurs de ligne offensive. Il y a eu une petite anecdote qui est sortie dans le dernier jour aussi. Il y a un joueur, un recruteur qui est venu le voir, un gars d'une équipe qui est venu le voir, lui a donné un cahier de jeu, lui a pointé un jeu, lui a dit, OK, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ce jeu-là? Comment tu le décortiques? C'est quoi ta job? C'est quoi la job de tout le monde? Tu sais, c'est une discussion de corridor, là, de lui qui croise le gars qui fait, hey, gars, voici le jeu, qu'est-ce que tu fais? Puis Nathaniel Blain-Dugui n'a pas hésité une seconde, il est allé dire exactement ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire, c'était quoi le rôle de chacun. Et au final, on a vu justement à quel point c'était un gars qui, avec le Rougeard, mais avec Kyle Brennan, qui est l'entraîneur de la ligne à l'attaque à Laval, à quel point ces gars-là étaient préparés. Sur la ligne à l'attaque à Laval, il y a vraiment une grosse préparation qui est faite. Il y a souvent aux États-Unis des questions à savoir c'est qui le... C'est quoi, tu sais, il y a le tight end you, le wide receiver you, tu sais, de savoir qui est la meilleure université pour développer ce genre de joueurs-là. Mais Laval, du côté de la ligne à l'attaque, on a tellement de joueurs qui ont réussi à faire une carrière universitaire professionnelle par la suite. Juste de penser à Luc Brodeur-Jourdain là, avec les Alouettes, qui a eu une carrière quand même prolifique avec les Alouettes. Il y en a plein d'autres qui étaient lassés, une belle carrière aussi, et j'en oublie. Donc, il y a vraiment une belle histoire avec les joueurs de ligne à l'attaque du Rougeard. Et là, Nathaniel Blain-Dugui était 18e en janvier sur la liste. Mais là, il y a plusieurs questionnements à savoir. Est-ce qu'il va sortir plus tôt? Est-ce que c'est un choix de top 5 même? Je veux dire, avec ce qu'il a montré physiquement et à quel point il était dominant dans les dernières années à Laval, est-ce que c'est le genre de joueur qui peut sortir dans le top 5? On sait que c'est vraiment on aime ça avoir des joueurs physiques sur la ligne à l'attaque aux Canadiens. Donc, est-ce que c'est un gars qui peut sortir aussitôt que le top 5? Est-ce qu'il va se faire se repêcher en première ronde? Est-ce qu'on aura deux joueurs du Rougeard en première ronde?
Tu t'attends à quoi de ton côté?
J'ai l'impression qu'il va sortir en première ronde. J'ai hâte de voir si ça va être très, très tôt ou non. Moi, j'ai l'impression puis j'ai le sentiment que les deux joueurs que je viens de parler vont sortir en première ronde, quelque chose comme 7e et 9e.
OK, ça serait, assez tôt quand
ouais,
même.
Oui, exact. Oh. Je pense que ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour ces deux gars-là d'avoir une opportunité comme ça puis de se faire repêcher à ce point-là rapidement. Puis, on verra qu'est-ce qui arrive.
Dumoulin-Duguay t'a dit tantôt que au cégep, il évolue en 3e division.
Ouais, exact, à Rimouski, au cégep de Rimouski.
Mais pourquoi il n'était pas plus haut? Qu'est-ce qui explique toute cette croissance?
Je pense que c'est un gars de Rimouski.
Ouais.
Donc, c'est un gars qui est arrivé, qui a peut-être pas eu d'offre ou a été moins vu au secondaire parce que justement, il était à Rimouski. Puis les recruteurs ont peut-être de la misère à se rendre là. Mais je sais pas
si loin que ça, pourtant.
Mais... Ouais,
avec un tellement gros bassin à Montréal, Québec,
c'est vrai,
souvent.
C'est vrai.
Il y en a peut-être moins qui font les voyages mal.
Je connais pas son histoire. Je sais pas si est-ce que peut-être qu'il y a eu des offres ailleurs puis qu'il les a pas acceptées pour rester dans sa famille. C'est une bonne question. Je sais pas non plus s'il a été vraiment courtisé par toutes les universités au Québec ou est-ce que c'est juste Laval qui lui a fait une offre. Mais tout ça pour dire quand même qu'un gars qui arrive de division 3 puis c'est pas le premier
un beau
à
parcours,
le faire.
Là.
Ouais, c'est pas le premier à le faire. Jean Rouleau, qui était justement en division 3 aussi. Donc Laval est capable d'aller chercher ce genre de joueur là. Il y en a d'autres qui vont arriver, j'en ai parlé un peu, mais Enzo Diulu, qui est un Français qui a joué à Jonquière, qui a eu sa première année cette année, c'est un jeune joueur qui peut vraiment faire la différence dans les prochaines années à Laval, c'est un gros receveur, mais c'est le genre de trouvaille qui fait la différence, parce qu'à Laval, à Montréal, quand t'as tous les meilleurs joueurs qui viennent dans tes programmes, mais ce qui fait la différence, c'est pas nécessairement les stars qui viennent, mais c'est les joueurs que tu développes. Parce que oui, c'est bien d'avoir les gros joueurs, mais quand t'as des joueurs qui se développent, que tu t'attends pas nécessairement qu'ils soient des grandes vedettes, mais qui finissent par être des vedettes, ben c'est ça qui élève ton programme. Parce que tous les joueurs par excellence de Division 1, ben oui, ça va aller à Laval, ça va aller à Montréal. C'est intéressant de les voir aller et de voir où est-ce qu'ils vont. Mais au final, c'est la différence, c'est à quel point tu peux avoir de la profondeur, des joueurs qui sont bons à chaque position. Puis même à une position que tu n'as pas nécessairement été bon pour recruter, mais d'avoir un joueur qui sort de nulle part, qui devient ton meilleur joueur, ben c'est ça qui fait la différence.
Dans
à Laval,
un sport où il y a tellement de blessures.
Exact, il y a tellement de blessures, qu'il y a tellement de positions. Tu sais, tu as 12 joueurs qui jouent à l'attaque, 12 joueurs qui jouent à la défensive, puis tu as 12 joueurs, des fois des doublons, mais des fois 12 joueurs différents qui vont jouer sur les unités spéciales. Tu sais, ça reste un nombre vraiment, vraiment astronomique de joueurs qui doivent faire leur impact. Puis on l'a vu à Laval il y a 2 ans. C'est un joueur des unités spéciales qui est allé faire le jeu au bon moment pour gagner le match. À Laval, on a vu tellement de bloqués pour aller gagner le match. Donc, c'est ça. Donc, d'avoir justement ces joueurs-là de Division 3 qui réussissent comme Nathaniel Dumoulin-Duguay, c'est vraiment intéressant.
Penses-tu qu'à l'UNAS Laval, il y a plus de ressources, plus de recruteurs pour aller trouver des perles comme ça dans des programmes un peu moins
clairement.
Gros, contrairement aux autres universités, mettons le Sherbrooke? Ouais. Avec le Varéal.
Ben oui, clairement. C'est clair que d'aller chercher ces diamants-là, c'est plus facile. Quand t'es à Rimouski, tu te fais offrir à Laval puis à Sherbrooke, ça se peut, puis que le monde à Laval te dit que t'es vraiment la personne qu'on veut, puis on a vraiment l'impression que t'es un diamant brut qu'on veut polir. Ben, ça se peut que le gars se dise « Ouais, je pense que Laval, c'est intéressant. » Fait que, tu sais, des gars qui sont vraiment les gros joueurs au Québec, ben ils peuvent se dire, hey, à Montréal, je vais avoir du temps de jeu, je vais devenir une vedette aussi, à Laval, même affaire, mais de se faire dire, hey, tu vas être une vedette à Laval, mon homme, ça se peut que ce soit plus facile de dire oui à Laval qu'à Sherbrooke. Puis ça se peut aussi que justement l'attrait de Laval soit justement là avec les positions qui sont capables de se développer. D'avoir des joueurs qui se font repêcher comme ça au Canada, dans la Ligue canadienne de football, ben c'est extrêmement bon.
Parce c'est une bonne publicité. Là.
C'est une bonne vitrine d'avoir des joueurs qui se font repêcher, de savoir que tu as une carrière professionnelle possible après, pas juste dans ton milieu universitaire, c'est vraiment intéressant.
Vite fait, il y avait aussi deux autres joueurs, je pense, du Rougeard qui participaient à ce camp d'entraînement de la CFL.
Ben, Frédéric Antoine, qui a été là, qui était à Laval pendant les deux dernières saisons, qui a été à Old Dominion avant aux États-Unis. C'était un joueur qui est arrivé du Cégep, qui était vraiment, vraiment solide. S'est exilé aux États-Unis, est revenu au Canada. Il a eu des gros problèmes de blessures aux États-Unis, mais aussi à Laval. Pas joué beaucoup de matchs. C'est un diamant, ce gars-là. C'est un joueur rapide, c'est un joueur solide. On va voir ce que ça peut donner au niveau professionnel. Difficile de savoir s'il va être repêché. C'est le genre de joueur qui va peut-être sortir dans les dernières rondes ou peut-être qu'on va vraiment aimer sa physicalité et qu'on va peut-être essayer d'aller le repêcher plus tôt. Une équipe comme les Alouettes encore là qui aime ça aller chercher des talents québécois en fin de repêchage pourrait peut-être être tenté par un joueur comme ça. Et le dernier joueur, Christophe Beaulieu, le frère de Jordan Beaulieu qui a joué au universitaire. C'est un joueur solide. C'est un des meilleurs demi-défensifs que le Québec a connu dans les dernières années. À voir encore là à quel point il sera repêché tôt. Mon sentiment, c'est que ça risque d'être autour de la quatrième, peut-être entre la quatrième puis la huitième ronde. On verra que ça donnera pour lui. Physiquement, a été solide également durant les tests. Il y a un autre joueur qui serait vraiment intéressant à voir aller. C'est pas un joueur de Laval, mais c'est Benjamin Labrosse. Il y avait eu des problèmes avec académiquement, où est-ce que justement il pensait être éligible pour le repêchage de la Ligue canadienne l'année passée. Ne l'était pas finalement. A voulu revenir à l'université, mais avec des problèmes d'admission, a pas pu justement. Je pense pas que c'était de sa faute. C'était pas des problèmes.
Du côté notes.
Exact. C'était pas des notes, c'est juste le fait qu'il n'était pas nécessairement éligible pour revenir à l'université pour X raisons. Et au final, il s'est retrouvé à avoir une saison à ne pas pouvoir jouer en se préparant pour ces camps-là, où est-ce que c'était la seule chance qu'il avait de se faire voir. Disait lui qu'il était capable de courir le 40 verges en 4-3, 4-35, ce qui est extrêmement rapide. Là. Les records qu'il y a dans la Ligue nationale de football, c'est 4-22. Là. Donc, courir 4-35, c'est vite. C'est vraiment rapide. Et finalement, couru 4-51, je pense, t'sais, ça dépend tout le temps de où est-ce que t'es, le turf et tout, les conditions, qui chronomètre, en tout cas. Mais tout ça pour dire que ce joueur-là va être vraiment intéressant. C'est un diamant extrêmement solide défensivement. Ça a été le seul joueur, je pense, à avoir réussi à arrêter Kevin Mittal lorsqu'il était en santé tout seul. Quand les autres équipes étaient à deux ou à trois, ben McGill était capable d'avoir seulement lui sur lui et ça marchait. Donc on va voir à quel point il sera repêché tôt, mais c'est clairement un joueur solide. La seule question, c'est justement, il l'a pas joué l'année passée, est-ce que ça va faire peur à certaines universités? C'est des joueurs, un autre joueur québécois qui serait vraiment intéressant à voir aller et à voir justement où est-ce qu'il sera repêché. C'est un joueur qui peut être repêché autant en première ronde qu'en huitième ronde ou pas repêché du tout. On verra qu'est-ce qu'il y a avec lui.
Le repêchage de la Ligue canadienne, est-ce que tu connais la date?
30 avril, si je me rappelle bien.
Puis d'ici justement le 30 avril, d'ici fin avril, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses peuvent continuer d'évoluer? Comment ça se passe?
Je pense qu'il y a une autre liste qui va sortir avant le repêchage, mais ce qui va évoluer surtout, c'est le repêchage de la NFL parce qu'il y a plusieurs joueurs canadiens qui vont être. Ben, tous les joueurs canadiens sont éligibles à ce repêchage-là. Mm-hmm. La seule question, c'est Mathieu Bergeron qui était sorti en deuxième ronde. Tu t'attends qu'il joue dans la NFL, donc tu le repêches pas trop tôt. Je pense pas qu'il avait été même repêché, lui. Mais tu sais, des joueurs qui sont repêchés dans la Ligue nationale de football, ça fait un peu plus peur aux équipes parce que tu sais pas s'il va venir jouer avec toi.
Évidemment.
Mais justement, des joueurs qui sont peut-être pas repêchés ou qui ont pas de chance au Canada, ben, vont peut-être avoir une chance, justement, de monter dans les rangs du repêchage canadien. Donc, tout va dépendre de qui est repêché, à quel point ces gars-là vont être repêchés tôt. Parce que des joueurs qui vont être signés comme agent libre, on verra qu'est-ce qui arrivera. Mais c'est vraiment la prochaine étape, c'est pas mal ça. Parce que le repêchage de la Ligue nationale de football, c'est autour du 15 avril, là, dans ce coin-là, donc mi-avril. Donc, c'est là qu'on va plus avoir une idée de qui est repêché, qui va où, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'il y a vraiment y a des joueurs, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui vont être vus comme les prochains Mathieu Bergeron, puis tu veux pas toucher à ça parce que tu sais qu'ils vont avoir une place dans la Ligue nationale de football tout de suite. On verra ce qui arrivera, mais.
Ça va être excitant à suivre.
Ouais, exact. Pour des joueurs de Laval, ça va être vraiment intéressant.
On continue à suivre ça jusqu'au 30 avril. Les gars, merci d'avoir été des nôtres. Encore une belle émission. Le prochain rendez-vous de Conduite Antisportive, c'est le vendredi à 15h. Et pour une autre, la prochaine émission des Trois Mousquetaires ici présents dans le studio, c'est lundi prochain, lundi de Pâques à 15h30. Bonne soirée.